épisode 36 du podcast Alimentation. Aujourd'hui, je vous parle de nouvelles tartinades pour vos déjeuners, de vin rosé du Québec pour le midi et de bière stout légère pour vos soirées d'été. Et c'est parti! Salut les foodies, ici Roger, votre crazy chef. Tout d'abord, n'oubliez pas, allez tout de suite liker nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est partout. Vous allez voir les photos de ce que je vous parle aujourd'hui et vous aurez toujours les toutes dernières nouvelles par rapport au podcast. Alors aujourd'hui, pour le premier bloc, je vais vous parler de trois nouvelles types de tartinades. En fait, il y en a une qui est vraiment nouvelle, les autres c'est peut-être là des choses que vous avez déjà vues, mais quand même quelque chose de très appréciable. Des tartinades là, pour mettre là, sur vos déjeuners, où vous pouvez sûrement vous en servir là, pour vos petits desserts ou pour vos petites collations sucrées. La première, c'est faite par le verger Petit et Fils. Le verger Petit et Fils que je vous ai déjà parlé par rapport à leur cidre Rabaska. Je vous ai parlé de ça à l'épisode 29. Ils sont situés là, à Mont-Saint-Hilaire, dans la Montérégie. C'est un verger qui existe là, depuis 1896. Ils ont une très belle histoire. Là, si vous allez voir sur leur site Internet, c'est très détaillé. Comme je vous dis, depuis 1896, là, de famille en famille. Très intéressant. Une très belle business où ils font énormément de choses. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une gelée de pommes. Une gelée de pommes très intéressante. Et évidemment, là, moi, personnellement, j'avais un petit là, a priori. On a tous là un ingrédient ou une recette que notre chère maman là, faisait mieux que tout le monde. Eh bien, moi, ma maman, ce qu'elle faisait mieux que tout le monde, c'était sa fameuse gelée de pommes. Tout le monde qui y a goûté là, est tout le temps tombé en bas de sa chaise, c'est reconnu. Alors, j'y étais, je me suis dit, ça va être assez difficile de battre celle à maman. Mais on y a quand même donné une chance. Et vraiment, un très beau produit. C'est vendu, là, j'ai trouvé ça en épicerie, un pot de 270 millilitres. Vraiment là, une gelée de pommes là, faite avec des ingrédients très simples, jus de pomme, sucre, évidemment, là, ils ont accès aux pommes qu'ils font pousser puisque c'est un verger. Un très beau produit, beaucoup aimé ça. Un produit quand même assez abordable et facile à trouver, comme je vous ai dit, là, c'était donc en épicerie. On parle d'un produit d'environ là, 5-6 $ d'environ, environ selon où est-ce que vous allez le trouver. Bien aimé, une belle gelée, une gelée qui se tient, puis pas trop stiff. Des fois, dans les gelées de pommes, là, quand on achetait dans le commerce, c'est dur d'avoir une belle texture. Là. Des fois, ou elle est trop dure, puis c'est presque pas tartinable, faut la faire fondre, c'est pas agréable. Ou bien, au contraire, là, elle est presque liquide comme de l'eau, puis là, elle se tient pas, c'est trop mou, c'est pas le fun. Là, vraiment, là, super belle texture, c'est une vraie gelée à l'ancienne. Une très belle saveur de pommes fraîches. Évidemment, là, ils ont accès, là, comme je vous ai dit, aux pommes en masse en étant sur un verger, ben ça paraît, là, c'est de la qualité. On s'en va pas là avec des essences ou des trucs chimiques. Top qualité, une très belle gelée de pommes. Comme je vous ai dit, ça bat pas celle à ma maman, mais un super beau produit. Personnellement, là, c'est peut-être une des bonnes que j'ai goûté. Fait que vraiment, là, chapeau, parce que comme je vous l'ai dit, je partais avec un petit moins pour eux là, à cause de ce que j'ai mangé toute ma vie dans ma jeunesse. Alors, un super beau produit, la gelée de pommes du verger Petit et Fils. Une super belle exécution, des belles saveurs, quelque chose de très agréable. 4,5 sur 5, vraiment, là. Probablement que si ce ne serait pas de la gelée de ma chère maman, je lui aurais donné une note parfaite. Mais là, par respect pour maman, on ne peut pas. Mais sinon, super belle saveur, allez vous chercher ça. C'est clair que vous allez triper. Ensuite, le deuxième produit que j'ai trouvé, ça vient de Bleu et Bon. Bleu et Bon qui font des tartinades de bleuets sauvages là, du Québec. Personnellement, celle que j'ai, c'est celle de bleuets et fraises. C'est faite avec du sirop d'érable et des graines de chia. Un pot là, encore environ, comme je dis, dans les mêmes prix, environ 6 $ pour un pot de 212 millilitres. Alors, la compagnie là, Bleu et Bon, là, qui sont basées à Beauceville, dans la région de Chaudière-Appalaches. un super beau produit, des produits quand même avec des ingrédients assez simples. Dans les ingrédients, on retrouve du bleuet sauvage surgelé, des fraises surgelées, un sirop d'érable ambré, des graines de chia entières et de l'acide citrique. Personnellement, moi, je suis très bleuet. C'est vraiment là, le petit fruit que je préfère. Je m'attendais à un peu plus d'évidence là, du bleuet, ne serait-ce que peut-être par le nom de la compagnie. J'ai remarqué là, une fois rendu à la maison que c'était bleuet et fraise, mais je m'attendais quand même à ce que le bleuet soit plus dominant que ça. C'était pas du tout désagréable, mais on dirait que les saveurs ne s'amalgamaient pas. J'avais l'impression que j'avais une bouchée qui était bleuet, puis la bouchée d'après qui était fraise. C'est comme si les saveurs n'étaient pas mélangées, dépendamment de quelle bouchée qu'on pognait. On avait une saveur différente. J'ai pas haï ça, mais je n'étais pas sûr de comprendre là, où est-ce qu'il avait voulu aller avec ça. Ça fait quand même là, un produit très, très intéressant. Il y avait vraiment des très beaux morceaux de fruits. C'était pas là une gelée. Là, dans ce cas-ci, là, on avait vraiment des beaux petits morceaux. Et comme je vous ai dit, il y a des graines de chia. Donc, ça amène ce petit côté là un peu léger, croquant sous la dent, ce qui n'était pas du tout inintéressant. Au début, j'ai resté surpris. Je pensais que c'était vraiment là, de la graine de fraise. Là, je me suis dit, ils en ont vraiment mis beaucoup. C'est très, très croquant. Mais après ça, après avoir revisé les ingrédients, j'ai vu que c'était des graines de chia. Je trouvais ça intéressant. Ça amenait quelque chose. Mais comme je vous dis, au niveau de la saveur, très bon. Comme je vous dis, on goûte vraiment la saveur de bleuet sauvage, typique, très typique là, qu'on a au Québec. Je l'ai reconnu, cette saveur-là, mais je trouvais que les saveurs se mélangeaient pas avec la fraise. Fait à cause de ça... un produit que j'ai quand même, somme toute, beaucoup aimé, mais on dirait que c'était pas clair là, qu'est-ce qu'il avait essayé de réussir avec ce produit-là en particulier. Je vais être assez curieux de trouver là, leur autre produit pour voir si peut-être qu'avec une tartinade semblable, mais avec juste bleuet, peut-être là, que je réussirais à trouver plus mon compte, parce que là, avec l'espèce de une bouchée fraise, une bouchée bleuet, j'étais pas sûr si c'est ça qu'ils voulaient accomplir ou si c'était simplement là, un manque d'exécution. Fait que quand même, là, un beau produit, la tartinade de bleuet sauvage du Québec aux fraises et bleuets de bleu et bon. Je vais y aller avec un 3,5 sur 5. Quand même quelque chose de bien intéressant. Comme je le dis personnellement, je suis quand même très bleuet, puis c'était quand même intéressant. J'ai bien hâte d'essayer les autres produits là, de cette compagnie-là. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là, à découvrir de bleu et bon de Beauceville dans Chaudière et Appalaches. Le troisième produit, d'après moi, là, ça va être un futur très, très gros coup de cœur au Québec, une fulgurante réussite. C'est fait par les végétaleries qui sont basées à Waterville en Estrie. Je vous ai déjà parlé des produits de la végétalerie là, dans l'épisode 6. Ils en sont à leur troisième produit. Il y avait déjà là, donc un végé pâté qui a été un immense coup de cœur, ainsi qu'un humus. Ils ont maintenant fait une tartinade choco-date dans des plats là, de 220, dans des pots en verre en fait, pas dans des plats. Donc, dans des pots en verre de 225 grammes, la tartinade là, choco-date, d'après moi, va être l'alternative santé et sans noix qui va remplacer là, le sabré Nutella qu'on essaie donc un peu tous là, en tant que parents là, de chasser du comptoir et qu'on veut, les enfants veulent absolument avoir là, une alternative. Eh bien, c'est une superbe alternative sans noix là, qui est faite à base de haricots blancs, dattes, eau, huile de coco, sirop d'érable, cacao, sel et vanille. Le pot, une fois ouvert, là, ou je pense que même pas ouvert, devrait se conserver au réfrigérateur. Je crois que c'est là que vous allez le trouver là, maintenant là, dans les épiceries. Il commence à être de plus en plus partout. Sinon, allez jeter un coup d'œil là, sur leur site Internet. Vraiment, là, c'est un immense coup de cœur. Encore une fois, une superbe exécution. On a le côté crémeux qui est là avec la datte et le haricot blanc. Le haricot blanc qui va vous amener ce côté protéiné-là. Là, le matin, vous voulez avoir quelque chose de soutenant. Évidemment, là, il y a toujours l'espèce d'histoire là, dans le Nutella qu'il y a des noisettes. Entre vous et moi, je pense que c'est pas nécessairement le Nutella qui est le repas le plus soutenant le matin. La tartinade choco-date va vous apporter ça. Le côté des dattes et du haricot blanc va vous donner une superbe texture crémeuse et onctueuse. C'est velouté en bouche. C'est magnifique. Saveur de cacao. est pas du tout là, de chocolat cheap. C'est vraiment crémeux, c'est chocolaté, c'est tout ce que vous voulez que ce soit. Le sucre va venir du côté des dattes, là, qui est évidemment un fruit séché, qui est pacté là, en saveur et en sucre. Donc, le mélange de tout ça vous donne une superbe tartinade chocolatée, onctueuse avec de la protéine. Il n'y a absolument rien qui fait défaut là-dedans, je vous le dis. Je suis sûr et certain que ça va être le prochain gros hit au Québec. Si vous envoyez à votre épicerie, loadez votre panier d'épicerie, c'est clair que ça va vendre comme des petits ponchos, comme disait notre petit Jean. Ça va partir vite, c'est clair que ça va être un franc succès. Il n'y a pas de défaut là-dedans, c'est tout ce que vous voulez que ce soit pour remplacer le fameux Nutella. Et en plus, c'est fait par une superbe petite entreprise d'ici. Donc la tartinade Chocodate, un gros coup de cœur des végétaleries. 5 sur 5, je vous le dis. Trouvez ça, demandez ça à votre petite épicerie locale, demandez ça à votre épicerie générale. C'est clair que ça va rentrer partout et ça va sortir vite. Faites-vous des réserves. Un superbe succès. La tartinade aux dattes et chocolat des végétaleries. C'est ce qui complète le premier bloc pour aujourd'hui. Pour le deuxième bloc, je vais vous suggérer des vins rosés du Québec. C'est l'été, il fait chaud cette année, puis je pense que souvent, là, on recherche là, un petit rosé pour se rafraîchir ou pour prendre un apéro, ou carrément, ça va être le vin pour votre soirée. Enfin, pour celui-là aussi, je vais vous donner là, des suggestions qui peuvent se prendre très facilement le midi. Un petit vin rosé, léger. La fin de semaine, vous allez être en vacances, vous allez être en congé. Vous avez le droit de prendre votre petite coupe de rosé le midi. Vous voulez vous gâter, vous voulez pas non plus là. Vous cassez là, le budget avec un petit peu de vin, eh bien, il y a des super belles alternatives faites au Québec. On va commencer. Premièrement, là, c'est la Halte des Pèlerins, le vin rosé. La Halte des Pèlerins est un vignoble là, qui est fait à Sherbrooke, en Estrie. Une bouteille qui se détaille là, à la SAQ à 15,95. Évidemment, bouteille de vin, là, 750 ml, donc le 26 onces traditionnel. Un très beau vin rosé, là, c'est peut-être un des ceux qui m'avait surpris le plus. Un goût de fruits de fraises très présent, sans avoir le sucre. Ça, je trouve ça intéressant quand ils réussissent ça. C'est un vin rosé qui est assez foncé. D'ailleurs, souvent, on voit des vins rosés très clairs, là, très un peu là, côté flamingo, là, si vous voulez, le flamant rose. Celui-là, il tirait vers la couleur de la fraise, donc... C'était quand même assez surprenant. J'aime beaucoup cette saveur de fruits-là sans avoir le sucre. Évidemment, quand on a une saveur de fruits avec le sucre dans un vin rosé, moi, je trouve ça beaucoup trop. Je vous le savais, je vous l'ai dit souvent, je ne suis pas particulièrement sucré. Pour le vin rosé, je trouve qu'on veut avoir quelque chose de sec, on veut avoir quelque chose de frais. Surtout là, si, comme je vous le suggère là, pour le midi, quelque chose de trop sucré, là, ça tombe sur le cœur, c'est pas le fun. Alors là, d'avoir une alternative là, qui va justement être là, bien, bien, bien frais, bien en fruits, bien sec, pas trop sucré. Vraiment, là, le vin rosé de la Halte des Pèlerins va vraiment représenter ça, comme je vous dis, avec un goût de fraise très présent, un vin qui est quand même très sec. Donc, vous n'allez pas avoir justement ce final avec un peu d'acidité ou un peu de fruits qui va rester longtemps en bouche. Ça va justement être parfait. Ça ne sera pas quelque chose qui va traîner sur le palais. C'est vraiment une belle découverte. Personnellement, c'est peut-être là, celui des trois que j'ai préféré, bien qu'il était à peu près tout là, dans la même gamme pour moi. C'est peut-être celui pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur. Là, je trouvais qu'il y avait un petit peu plus de saveur franche, un petit peu plus de finesse, même si c'était un goût de fraise qui était très, très présent. Je trouvais que le reste des saveurs qu'il y avait dedans, dans tout se marier, tout était en subtilité, mais ça me tenait, comme je vous ai dit, un beau rosé là, quand même assez punché et un petit peu plus foncé que les autres. Donc, là, pour le vin rosé de la Halte des Pèlerins, j'y vais avec un 3,75 sur 5. Un vin très intéressant là, du vignoble de Sherbrooke en Estrie. Ensuite, le deuxième vin que je vais vous parler est le vin Marie-Rose du vignoble Les Vents d'Ange. Donc, le vent comme le vent d'Ange. Hein? Petit jeu de mots là, avec les vents d'Ange pour un vignoble. Très bien. Alors, c'est un vignoble qui vient de... Saint-Joseph-du-Lac, dans les Basses-Laurentides. Il paraîtrait là, que ce serait là, un des plus gros vignobles là, des Laurentides. Un vin rose, là, tout en légèreté. Encore une fois, très sec. Beaucoup de saveurs de petits fruits rouges. Là. J'aurais pas pu en déceler un plus que l'autre. Là. Fait qu'imaginez un mélange de fruits rouges, là. Les fraises, les framboises, un petit peu de cerise. vraiment, c'est ces saveurs-là qui ressortaient. Ça donnait quelque chose de très délicat, mais très intéressant. D'un autre côté, il n'y avait pas nécessairement de saveur extrêmement franche qui venait en sortir, mais comme un vin encore un petit peu plus délicat, un petit peu plus léger, c'était vraiment intéressant. Encore une fois, un vin qui est très, très frais. C'est en vente là, à la SAQ à 13,90 $ la bouteille. Évidemment, encore une fois, toujours 750 ml, 26 onces. Un vraiment très beau rosé. Encore une fois, là, c'est très en délicatesse. C'est probablement là, la qualité qu'il y avait le plus pour lui. Si vous cherchez probablement là, un rosé québécois qui va être un peu plus du style apéro, qui va être très léger, je pense que ça va clairement là, être le choix sur lequel vous devriez là, vous diriger. Le vin Marie-Rose du vignoble Vendange. Vraiment, et en plus de ça, à petit prix, 13,90 $ pour une bouteille. C'est toujours le fun. On cherche toujours des alternatives. On essaie toujours de trouver des bouteilles en bas de 20 $. C'est jamais une garantie là, de savoir à quel point est-ce que le vin est bon. Les vins du Québec, des fois, on les connaît un petit peu moins. Et bien là, vraiment, là, je pense que c'est quand même une valeur sûre. Là, si vous cherchez un petit rosé d'apéro léger, je pense que ça va être exactement ce que vous allez avoir de besoin. Les petits fruits, comme je vous ai dit, rouges, très délicat, très léger, quand même très frais et très sec. Encore une fois, là, un vin qui n'est pas du tout sucré, là, qui ne va pas vous tomber sur le cœur. Ça va être aussi des vins qui sont le fun à travailler. Si vous voulez faire un cocktail ou une sangria rosée, ça va être des vins là, qui ne seront pas trop forts, donc ça va être super le fun à travailler et qui ont quand même là, des goûts de fruits dedans. Donc, ça va être facile à aller travailler là, vers la sangria. Énormément de choses à faire avec ces vins-là, surtout les boire. Alors, pour le vin Marie-Rose, du vignoble Vendange des Basses-Laurentides à Saint-Joseph-du-Lac, un 3,5 sur 5, très léger, très délicat. Comme je vous ai dit, là, je pense que si vous cherchez un petit rosé pour l'apéro, c'est clairement là, le choix vers lequel vous devriez vous diriger. Ensuite, le troisième rosé, c'est un rosé qui vient du Domaine Lavoie. J'ai déjà parlé là, de certains produits qui font Domaine Lavoie. Ils font énormément de produits et ils sont beaucoup disponibles en épicerie maintenant, ce qui est quand même le fun d'avoir. Là, on voyait moins ces produits-là avant, il fallait absolument aller à la SAQ. Maintenant, là, autant quelques vins ainsi que quelques produits de spécialité du Domaine Lavoie, entre autres, vont être disponibles à l'épicerie. Alors, le rosé du Domaine Lavoie, une bouteille à la SAQ qui se vend 14,95 $. Un super beau produit, là. Encore une fois, c'est peut-être une espèce de mariage des deux autres, là. Vous allez retrouver ces saveurs, là, d'un peu de fraise, un peu de framboise, avec un petit peu plus de punch, mais quand même très léger, très frais, très sec. Je pense que ça va peut-être, là, comme je vous ai dit, être l'amalgame des deux autres, là. Si vous cherchez une espèce d'hybride, là, entre une saveur de fruits un peu plus punchée, puis quand même quelque chose de très frais, très délicat, eh bien, je pense que ça va y être celui-là. Vraiment bien aimé ce vin-là. Ça se boit bien, il y a vraiment là, c'est vraiment, j'ai vraiment frappé un coup de circuit pour mes goûts à moi. C'était tous des vins là, qui se trouvaient justement à être pas très sucrés. La saveur de fruits était là sans qu'il y ait une lourdeur de sucre. J'ai toujours peur quand j'essaie un rosé que je connais pas. On connaît tous les vins un peu plus commerciaux qu'on trouve à la SAQ là, qui sont ultra sucrés. C'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout dans ma palette. Alors, quand je vois avec quelque chose que je sais pas, j'ai toujours peur, on sait jamais sur quoi qu'on va tomber. Cette fois-ci, là, je suis tombé 3 fois dans ma palette, j'ai beaucoup aimé ça. Avec les chaleurs qui fait ces temps-ci, là, c'est un vin que vous allez apprécier, c'est sûr. En pleine canicule, là, vous ouvrez un petit rosé du Domaine Lavoie, je suis sûr que ça va vous rafraîchir, que ça va vous donner tout ce que vous voulez. Je vous vois très bien là, installé sur la terrasse, ouvrir le petit Domaine Lavoie. D'après moi, ça va être un hit. Donc, pour le vin rosé là, du Domaine Lavoie, je vais avec un 3,75 sur 5. Comme je vous dis, là, une bouteille à 14,95 $. C'est vraiment là, l'entre-deux des deux autres vins que je vous ai parlé plus tôt aujourd'hui. Vraiment là, une très belle brochette. Honnêtement, n'importe lequel des trois, vous vous trompez pas. Ça va vraiment aller là, selon vos préférences. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le prendre en apéro? Est-ce que vous voulez le prendre avec un souper, avec un poisson? Est-ce que vous allez faire une sangria avec ou vous avez une recette de cocktail à faire avec du vin rosé? Je pense que c'est juste ça qui va faire la différence, ainsi que vos goûts personnels. Mais honnêtement, les trois, vous pouvez pas vous tromper. C'est des prix très raisonnables. C'est des produits du Québec. C'est toujours le fun. Donc, je pense qu'on fait de plus en plus de beaux vins au Québec. C'est le temps d'en profiter et d'encourager là, ces vignerons-là. Donc, pour le deuxième bloc sur les vins rosés, c'est complet. On s'en va au dernier bloc. pour le troisième et dernier bloc, je vais vous parler de bière stout un peu plus légère là, à prendre en soirée, même si c'est la canicule. C'est un style de bière là, qui est beaucoup moins léger. C'est des bières qui traînaient depuis un certain temps dans mon frigo. Je m'étais dit, il faut que je fasse là, un bloc stout, mais avec la chaleur cet été, je suis vraiment passé là, aux bières très légères, là, puis aux bières, beaucoup plus aux bières de soif. Habituellement, même l'été, ça ne me dérange pas. Je suis assez aventureux. Mais cet été particulièrement, là, je suis vraiment tombé dans la bière de soif. Donc, de boire de la stout, là, j'avais beaucoup de misère. Et finalement, j'ai été chanceux. C'est quand même trois belles stouts assez légères qui n'étaient pas désagréables à boire là, malgré la grosse température. Donc, on va commencer. La première que j'ai goûtée, en fait, je vous en avais déjà parlé à l'épisode 32 de la microbrasserie là, Anorak, qui a à peine un an là, à Morin Heights, dans les Laurentides. C'est la O'Riordan de la brasserie Anorak, une oatmeal stout à 4% d'alcool et 35 IBU. Ce que Anorak a à dire sur leur bière, le profil aromatique est d'une stout irlandaise avec un léger goût de café torréfié. Vos papilles retrouveront un côté chocolaté et savoureux. La description du nom: Dolores O'Riordan est une chanteuse du groupe irlandais The Cranberries. Elle était reconnue pour sa voix unique. Nous avons nommé cette stout irlandaise avec son nom de famille ainsi que le titre d'une de ses compositions qui est reliée au goût de cette bière. Une stout là, tout en douceur et en légèreté, et c'était beaucoup là, en raccord avec les autres bières que j'avais pris d'Anorak, comme j'en ai parlé là, à l'épisode 32. Une bière très légère, crémeuse, une très beau, entre autres, j'ai pensé que c'était une très belle stout d'introduction. Si c'est un type de bière là, qui vous fait peur ou que vous, avec lequel vous n'avez pas d'atome crochu habituellement, je vous dirais que la O'Riordan de la microbrasserie Anorak pourrait être vraiment là, une stout qui pourrait vous accrocher sur ce style-là. Là, vraiment, c'est une des forces d'Anorak. Des très belles bières, très simples, pas trop de complexité, pas trop de saveur, mais toujours très léger et très, très bien exécuté. Ça a été vraiment là, cette stout-là, en raccord avec les autres bières que j'ai bues là, de cette microbrasserie-là. Ça faisait beaucoup de sens, c'était bien exécuté, très léger, mais ça ne voulait pas dire que les saveurs n'étaient pas là, c'était juste extrêmement délicat. Donc, une oatmeal stout qui avait cette espèce de côté, évidemment, le crémeux-là, de stout, de l'avoine, très intéressant, très léger. Il y avait quand même là, des saveurs là, qui allaient chercher un petit peu, évidemment, là, les saveurs de stout qu'on est habitué, là, donc légèrement le café, le côté quand même crémeux avec l'espèce de côté rôti là, qui va aller chercher. C'était super intéressant. Une bière, comme je vous ai dit, qui, malgré une stout, avait une très belle légèreté et qui était très, très, très... qui faisait carrément partie de la famille de la brasserie Anorak. Je pense que ça fait 6 ou 7 bières que j'ai goûté d'eux. Et ils ont cette espèce de particularité-là là, d'être toujours en légèreté, mais dans la simplicité et dans une très belle exécution. Donc, pour la stout O'Riordan de la microbrasserie Anorak dans les Laurentides, j'y vais avec un 3.5 sur 5. Comme deuxième stout, mais c'est peut-être celle qui est là un petit peu plus costaude des trois que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les 50 nuances de brun de la microbrasserie Rollbock, qui est située à Saint-Jean-Port-Joli. La 50 nuances de brun est à 8,5% d'alcool et 0 IBU. Une bière dont ce qu'on dit de le style de bière, c'est une stout impériale double. Ce que la brasserie Rollbock a à dire sur leur bière, c'est que c'est une splendide stout impériale auquel on a ajouté une quantité phénoménale de café, de cacao et de coconut grillé. Une bière très en saveur, celle-là. Bien qu'elle soit légère dans sa texture, puis dans sa texture, les saveurs sont quand même très là. On retrouve une espèce de café mocha. Là. Le côté café et chocolat sont vraiment ensemble, main dans la main, là, au niveau des saveurs. Le côté cacao va amener une pointe de coconut. Fait que même s'ils disent qu'ils en ont mis vraiment beaucoup, ça aurait pu être une saveur qui tombe un peu sur le cœur si c'est over coconut. Je pense que ça a été extrêmement bien dosé. Le café, le chocolat sont là. Il y a une espèce de légère pointe là, de noix de coco grillée, encore une fois, qui vient faire son tour. Un léger côté quand même très torréfié, doux, sec. Ça n'a pas la lourdeur, bien que ce soit là, peut-être la plus costaude, comme je vous dis, là, des trois bières que je vais vous parler aujourd'hui. Mais c'est même qu'elle soit la plus costaude, est quand même restée dans une certaine légèreté. Je trouvais quand même que c'était une bière qui était buvable là, à grande température. Si vous n'êtes pas là, le plus habitué de ce style de stout, de bière-là, là, évidemment, ces bières noires-là qui sont toujours un peu plus chargées, ben là, je trouvais que c'était vraiment intéressant. C'était peut-être le meilleur équilibre entre ces stouts-là qui peuvent être extrêmement chargés et une stout très, très, très légère, comme on a vu justement, entre autres, là, avec la O'Riordan de Anorak. Je trouvais que c'était un très beau, un très bel entre-deux. Ça amenait beaucoup de saveur. Ça amenait juste assez de punch. C'était pas trop lourd. Ça aurait été facile là, d'avoir quelque chose de trop lourd, puis à une température de 32 degrés. Ça vous aurait tombé sur le cœur, probablement. Là, c'était quand même très buvable. Il y avait des très belles saveurs. La saveur, justement, de café torréfié était pas trop fort. Ça aurait pu être lourd et amer. Pas du tout, comme je l'ai dit, c'était plus dans le café mocha. Le petit coconut qui vient faire son tour. Le côté un peu de rôti, doux, sec. Vraiment, là, une super belle exécution. Une très belle bière. Beaucoup de belles saveurs. Un petit suc, évidemment, là, par rapport au côté mocha, là, et coconut. Un très, très beau produit. J'y vais à 3,75 sur 5 pour les 50 nuances de brun de la microbrasserie Ralbock. La troisième stout dont je vais vous parler est de la microbrasserie Perspective Microbrasserie de Saint-Liboire. La bière s'appelle la Ether Stout. C'est une stout à 5,3% d'alcool et à 0 IBU. Une bière vraiment en légèreté. Presque trop. C'est peut-être pas celle qui avait le plus de saveurs. Il y a bien des saveurs auxquelles je m'attendais qu'ils soient là, qui n'étaient pas là du tout. Ça reste une bière très légère, une bière avec une pointe sucrée, des arômes qui variaient entre le café et le café glacé. On ne savait pas trop exactement. Fait qu'il y avait quand même cette saveur de café-là, mais il y avait cette espèce de côté de café sucré plus ou moins naturel. C'était comme pas clair. Honnêtement, la bière est annoncée comme une bière le stout au coconut. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment trouvé là, beaucoup de coconut dans cette saveur-là. Bien honnêtement, je ne sais pas si ce n'était pas écrit sur la canette, si j'aurais su que je devais trouver là, du coconut là-dedans. Une bière vraiment légère, mais contrairement là, à la bière de Anorak, qui était toute en légèreté, mais surtout en subtilité, et que toutes les saveurs étaient là, là j'avais l'impression qu'elle était trop légère, que c'était trop. Ça avait presque un côté qu'on sentait presque dilué ou qui manquait là, de concentration, au contraire, justement, parce que ça me surprendrait qu'il dilue la bière, mais qui manquait peut-être de concentration, de saveur, que j'aurais peut-être aimé en avoir un petit peu plus, là, d'avoir un petit peu plus de punch pour aller chercher ces saveurs-là qui semblaient vouloir avoir. C'était trop peu présent dans certains cas, comme je vous dis, pour le coconut. Je pense pas, bien honnêtement, que je l'aurais décelé là, si je l'aurais pas lu sur la canette. Donc, une petite stout intéressante, très légère. Comme je vous dis, personnellement, à la limite, presque trop. Il manquait des saveurs. C'était une bière qui se buvait bien, qui n'était pas lourde, qui n'était pas trop chargée. Au niveau de la texture, évidemment, encore une fois, là, quelque chose qui se buvait bien, qui était léger. Mais je trouvais que c'était au niveau des saveurs là, que ça manquait un petit peu de corps, là, que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de tout ce qu'ils m'ont donné et un petit peu plus de ce qu'ils m'ont pas donné, comme je dis aussi, là, avec le coconut. Ça ne faisait pas une bière désagréable. Ça en fait surtout une bière que j'aurais voulu en avoir plus. Je trouvais que ce que je goûtais, je le goûtais, j'aimais ça. Puis j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus. Là. Je comprends là, qu'ils voulaient probablement rester justement là, dans ce type de stout un peu plus légère-là. Mais j'ai l'impression que c'est pas complètement réussi, bien que ce soit pas du tout désagréable, encore une fois. Mais j'aurais aimé avoir plus de ce qu'ils ont fait. Donc, je vais quand même là, jeter un œil sur leur autre produit. Ils ont peut-être là, une autre stout qui va être un peu plus corsée, avec un peu plus de saveur, qui va peut-être plus se rapprocher de ce que j'espérais. Sinon, celle-là, c'est quand même un très beau produit. On parle quand même là, d'une belle stout, comme je vous dis, tout en légèreté. Si vous voulez avoir vraiment une stout très légère, qui va vraiment pas là, vous charger le palais. Ça peut peut-être être le produit là, que vous recherchez. Donc, la Ether Stout de Perspective Microbrasserie de Saint-Liboire, on y va avec un 3,25 sur 5. Donc, c'est ce qui complète le troisième bloc et l'épisode pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous au podcast, peu importe le podcatcher que vous utilisez, Spotify, Google, Apple Podcasts, peu importe lequel, Aliment Passion est là. Abonnez-vous, ça va rentrer directement dans votre appareil dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous avez juste à nous écouter et à prendre les suggestions en notes qui vous intéressent pour votre week-end foodie. Manquez pas les prochains épisodes, j'ai pas encore sorti là, une grande entrevue pour le mois de juillet, mais j'ai des choses très très le fun, des grosses prises qui s'en viennent. Ne manquez pas un épisode, ça s'en vient. En attendant, ici Roger, le Crazy Chef, qui vous dit arrêtez de faire des recettes et cuisinez. Bye bye.